salue la dernière du jour, les journalistes de Libération qui se mettent en grève parce que s'aperçoivent que leur patron, Serge Joly, cautionne le plan Rothschild.
Bonjour Daniel, bonjour à vous tous. J'ai failli ce jour 22-11 à 13h30 m'étouffer en buvant mon café. En effet, au journal de France Inter, M. Chirac jurait que la SNCF resterait entreprise publique. Il y a 2 ou 3 ans, dans son allocution du 14 juillet, il tenait les mêmes propos concernant EDF. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. Il est vrai que les propos de M. Chirac n'engagent que ceux qui les écoutent. Jean-Louis Ajournant dans l'Ain, agent inactif EDF. Merci.
Je viens d'écouter sur France Inter notre cher président de la République qui se porte garant que la SNCF ne sera pas privatisée. Je reviens un petit peu en arrière, juste avant de faire référendum, ce cher monsieur nous a dit aussi que la directive Bolkestein était retirée. Et voilà que cette semaine, à Bruxelles, elle est de nouveau sur le tapis et rediscutée. Pas mal quand même. Comment peut-on croire un personnage comme ça qui ment comme il respire? Voilà un bel exemple de droiture et d'intégrité pour notre peuple. Superbe. Franchement, aujourd'hui, on n'est plus des neuneux. On est éduqué, on a été à l'école, on a eu des autres d'études, on a une mémoire, franchement. C'est pas possible quand même d'écouter des gars comme ça.
Bonjour. Ce matin, mercredi, il est 8h30 et il y a un excellent numéro de duettiste entre Stéphane Paoli et un type là, qui nous explique, mais mon Dieu, qu'il faut arrêter d'avoir peur pour les services publics. N'ayez pas peur et arrêtez vos fantasmes, messieurs de la CGT de Sud. Enfin, il faut avoir confiance, il n'a jamais été question d'une quelconque privatisation pour qui que ce soit. Alors, ayons confiance en l'avenir. Bonsoir.
Nous avons assisté, pour le référendum du 29 mai, à une montée en puissance des médias pour le oui. Voilà, et aujourd'hui, en ce moment, on assiste à une montée en puissance contre des médias toujours, hein, et de France Inter aussi donc, contre les grèves donc, qui ont lieu actuellement pour le maintien des services publics. Je sais pas, je me demande si c'est pas lié, moi, tout ça. Voilà, au revoir, c'était Marie de Maison Alfort.
Salut Daniel, c'est Gwendal de Laval. Donc je voulais juste rappeler que ce samedi 26 novembre, c'est la journée internationale sans achat. Donc journée symbolique pour protester contre notre société de surconsommation excessive. Vous pouvez en savoir plus sur le www.casseurdepub.org, casseur au pluriel. Vous y trouverez des affiches, des flyers à imprimer et à distribuer tout autour de vous. Voilà, j'espère qu'on sera nombreux à se mobiliser. Merci, à plus.
Et ben voilà, amis polygames et pyromanes, comment les casseurs de pub font leur pub sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Aujourd'hui, chanson coloniale, deuxième partie, avec Claude et Josette Liozu, deux historiens. Nous parcourons l'histoire de la chanson coloniale et de notre beau pays par voie de conséquence. On le sait, la chanson fabrique et reflète l'opinion. Et là, on va voir toutes les interférences entre notre histoire et les chansons qui correspondent. Alors, hier, j'ai parlé d'une interview donnée par Alain Finkielkraut au quotidien Haaretz, quotidien israélien Haaretz, une interview parfaitement passionnante, tout à fait passionnante. Vous pouvez en lire de larges extraits aujourd'hui dans le quotidien Le Monde, qui en donne des grands extraits, ou bien en cherchant un petit peu sur Internet, vous finirez par trouver ce petit chef-d'œuvre. Alors, il n'est pas le seul, je l'ai dit, à parler différemment en France et à l'étranger. Et on a l'histoire de Hélène Carrère-Dancausse. Mais il y a aussi le cas de Patrick Balkany, député maire UMP de Levallois-Perret, ami du ministre de l'Intérieur, Monsieur Sarkozy, qui a répondu aux questions posées par un journaliste d'une chaîne de télévision américaine. On a passé ce document hier, mais alors voilà que des milliers, des centaines de milliers d'auditeurs nous ont dit « Je n'ai pas tout entendu, je n'ai pas tout compris ». Des centaines et des centaines de milliers d'auditeurs qui nous ont dit « J'en ai entendu parler ». Alors, souci d'être un service public au service de l'auditeur, voici à nouveau ce document.
Quand on se balade à Paris, c'est beau, c'est si français. Dans les villes américaines, les pauvres sont partout, ce n'est pas très beau, c'est le bazar. Comment est-ce que vous avez réussi à inciter les pauvres à quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue ?
Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe, il y a des foyers d'accueil, parce que en hiver, en France aussi, il fait froid, et il n'est pas question de laisser dehors les gens qui sont dans la misère. Donc nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais ce sont des gens relativement rares qui ont décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société, qu'ils ne voulaient pas travailler ou qu'ils avaient été rejetés par la société.
Voilà, c'est un véritable document, c'est pas une, pas un comédien, c'est pas un imitateur, il n'y a aucun doublage là-dedans, mais c'est quand même une imposture. Celui qui pose les questions, au début, c'est l'un des yes men, vous savez, ces deux oiseaux rares, ces deux américains, yes men, ça veut dire les bénis oui-oui, qui, depuis quelques années, pratiquent comme ça des impostures à travers le monde. Il y a un film sur eux, enfin, où ils racontent leurs histoires. On les avait invités il y a quelques temps. Ils sont absolument remarquables. Alors, controverse sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Pourquoi controverse ? Parce qu'il y a quelques jours, lundi, un auditeur a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai vu que les socialistes chantent l'international, mais ils n'ont pas le droit de chanter l'international. » Et puis hier, il y a une certaine Brigitte, une auditrice des Vosges, je crois, qui dit « Quoi ? Mais c'est inadmissible. Moi, je suis militante au Parti Socialiste et j'estime que nous avons le droit de chanter l'international. » Alors, bon, voilà, la controverse en est là, mais aujourd'hui, eh bien, il a des réponses à Brigitte sur le répondeur de la basse. J'y suis, on va entendre ses réponses, quelques autres messages, et puis ensuite, les chansons coloniales.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe, et salut aux auditeurs. Et un bonjour tout particulier à Brigitte de Moselle. Car Brigitte ne sait pas ce que c'est que le socialisme caviar, et je voudrais essayer de le lui faire comprendre. Le socialisme caviar, ma chère Brigitte, préfère accompagner le libéralisme par des mesures caritatives plutôt que de changer le monde par une politique sociale. C'est la politique menée par les gouvernements Fabius, Rocard et surtout Jospin. Si vous voulez plus de détails, ma chère Brigitte, référez-vous à deux des motions présentées par votre parti. L'une, social-démocrate complexée, celle de Hollande, et l'autre, social-libérale décomplexée, celle de Bockel. Il ne s'agit pas, ma chère Brigitte, de vous interdire de chanter l'international, mais avouez qu'il n'y a rien dans ces deux motions qui puisse faire changer le monde de base. Ma chère Brigitte, 54% des socialistes ont choisi une motion libérale. Soyez donc à droite et de manière décomplexée, comme le préconise le très peu social mais très libéral maire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel. C'était Didier du Haut-Rhin.
J'appelle là pour répondre à la dame qui trouve qu'elle a marre d'être méprisée, une militante socialiste qui trouve anormal qu'on la trouve ridicule de chanter l'international. Marre d'être méprisée, mais c'est vous, ma bonne dame, qui avez méprisé les salariés, mis à la rue les sidérurgistes par paquet de mille, après que Mitterrand ait défilé avec eux avant de se faire élire. Qui c'est qui a créé les tucs Fabius, les sous-emplois, les petits boulots et les fins de droit de Bérégovois? Comment peut-on avoir le toupet de dire que les gens sont en fin de droit, ne plus avoir de droit? Et ben, à propos de Bérégovois, le forfait hospitalier, et Rocard, le magique, l'inventeur du RMI, le revenu minimum, hein, c'est glorieux. Vous avez structuré la misère, ma bonne dame. La CSG, le livre blanc des retraites de Brocard, mis en musique par Balladur, les vignettes bleues de Madame Dufoy, le livret qui dégringole, les 110 propositions de Mitterrand. Il y en avait une, c'était de supprimer l'intérim, elles ont fait que fleurir. Et les 10 points de perte dans la richesse créée par les salaires, c'est les 10 points que le capital à récupérer. Alors vous croyez que on va vous décerner la croix du mérite? Non, mais écoutez, les socialistes, les militants, vous êtes nuls. Voilà. Au revoir.
Patrick Gimond de la Pays Gironde. Voilà, nous avons occupé collectivement une trentaine de demandeurs d'emploi à la NPE de Bordeaux-Mériadec ce matin pour lutter contre les radiations abusives. Nous avons obtenu satisfaction puisqu'il s'agissait d'accompagner une personne qui avait été radiée 15 jours. Voilà, donc encore une fois, un exemple de quand on se bouge, quand on lutte, on obtient satisfaction. La NPE qui aujourd'hui a droit de vie et de mort sociale sur les gens a été obligée de revenir sur sa décision. Donc la personne est réintégrée dans ses droits et va pouvoir suivre sa formation initiale puisqu'elle voulait devenir professeur des écoles. Voilà, salut à tous, merci pour ce que vous faites et à très bientôt.
Ali liyabate wanamaliye, Ali liyabate. Ça, c'était une petite chanson populaire égyptienne dans mon enfance en Égypte, qui veut dire tout simplement le petit Ali emmène ses canards dans le champ, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était une chanson subversive parce qu'il y avait, c'était une chanson populaire dont les paroles avaient été changées, un peu comme dans l'émission d'aujourd'hui, on raconte qu'il y a des chansons populaires qui ont été transformées en chansons colonialistes. Et là, c'était une chanson anti-coloniale, enfin anti-britannique à l'époque, et qui disait à peu près, dans la nouvelle version, le peuple d'Égypte emmène les Anglais au fond du canal de Suez, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était juste un petit contrepoint pour dire que la chanson populaire anti-colonialiste, aussi, ça existe, et j'espère bien que peut-être on pourrait travailler là-dessus. Bon, d'autre part, le colonialisme britannique que j'ai bien connu en Égypte, donc dans ma petite enfance et mon enfance, c'est pas beaucoup plus brillant que le colonialisme français, en particulier les bagnes, qui a permis l'Australie, entre autres, par exemple. Bon, bravo à votre émission et bonne continuation. Je suis Rémi à Saint-Nazaire.
La France est un empire fait d'une métropole et de provinces lointaines qu'unissent les liens du cœur autant que ceux de l'intérêt. Cet empire s'est formé lentement, patiemment, par l'effort conjugué des explorateurs, des soldats, des missionnaires, des commerçants et des colons. 1830, conquête de l'Algérie. Nous avons pris pied sur la terre d'Afrique, y retrouvant la trace de Rome.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Claude et Josette Liozu, la chanson coloniale.
Flight number 2, arriving from...
Donc, avec Josette et Claude Liozu, on va passer cette heure autour d'un travail qu'ils ont fait sur la chanson coloniale, proche de celui qu'a fait un autre historien qui s'appelle Alain Ruscio et qui s'intitule, lui, je parle de son livre, « Que la France était belle au temps des colonies ». On pourrait tout simplement poser la question « Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une chanson ?» C'est que l'air de rien, c'est le cas de le dire, l'air de rien, ben une chanson avec des petits vers de Mirliton, ça doit amuser le bon peuple, mais ça trimballe énormément de choses, l'air de rien. La chanson est bien sûr une expression d'essence populaire, mais c'est devenu un art de masse qui n'a rien d'innocent sur un air souvent innocent. Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, mais entre-temps, ça lave le cerveau, ça monte le bourrichon, ça fait croire que c'est comme ça et pas autrement. Et ainsi, la chanson qui a accompagné toute l'histoire coloniale française, de 1830 à 1962, si on veut bien s'en tenir à ces dates, eh bien, reflète ce qu'a été cette colonisation, reflète une idéologie dominante, reflète quelque chose qui va de soi, une évidence, un racisme innocent. Et on va voir comment, dans cette deuxième partie, la chanson en dit long.
Oh, revenons à ce baroque, chanson Marc, chantée par Branem. En revenant du Maroc, vous faites que vous êtes méga boy, du bateau en débarquant, pourquoi les rognons mettent pas fort les dents, là le régiment qui défile, pour qui en trouvait les pédous tranquilles, en voyant du haut en bas, pour Paris Chouga les femmes restent papa. Je suis français il y a pas longtemps, marchandant pour la France, sans visite à voix de côté, marchant avec nos pieds, et ceux qui font des cheveux dans nos souliers, 3, 4, en avant, et en avant.
On est avec Dranem, la chanson date de 1910. En venant du Maroc, on plaisante sur la langue marocaine.
Ça revient constamment,
oui.
Et c'est une chanson marche. Et il faut le souligner parce que c'est paramilitaire, si l'on veut. Ça se veut Saint-Jean, la musique militaire, par un rythme entraînant. Je voudrais rappeler quand même que la petite tonkinoise a été l'air sur lequel les troupes françaises ont conquis Casablanca en 1907. Elles sont parties à l'assaut de Casablanca avec la musique de la petite tonkinoise. Et cette musique était aussi très entraînante, donc conçue dans l'armée comme un moyen de faire marcher. Et cette musique a été réemployée pendant la guerre de 14-18 à propos d'une chanson qui s'appelle « Mamimi, Mamimi, ma mitrailleuse ». La mélodie compte beaucoup. Là, les chansons sont banales. Et on a le jeu de mots sur la langue arabe. Et puis, on a la fameuse image du Maroc qui a occupé une grande place dans l'imaginaire colonial français. Bien sûr, depuis le début du siècle jusqu'aux années 1925.
Les Mormons et les Papous, chansons polygames et repopulatrices. On ne voit que des filles sans mari, que des belles au cœur incompris, que des veuves à l'œil attendri, un tas de belles mômes qui se dessèchent, des beautés qui deviennent blêches. Tout ça c'est de la faute à nos lois, à des parlementaires en bois, qui ont le cœur et les pieds froids. L'homme peut aimer 10 femmes par jour, et des pauvres femmes meurent d'amour. Vive les Mormons, vive les Papous, qui prennent la vie par le bon bout. Tous ces gars-là sont polygames, bigames, trigames et hectogames. Ils ont des femmes plein leur salon, plus que de fauteuils ou de guéridons. Ils comprennent la vie bien mieux que nous. Vive les Mormons, vive les Papous.
On passe en plus. Georges, c'est un ton absolument formidable. Oui. C'est un grand artiste. Ça date.
Il n'y a pas de date exacte, disons environ de la Première Guerre mondiale. Hein. Par contre, ce qu'on sait sur Georgius, c'est que c'est celui qu'on appelait la musure publique numéro 1. Mm-hmm. Et il a bâti une grande partie de son répertoire sur justement les chansons coloniales. Il a chanté la valse nègre, Brou de noix par exemple. Et des chansons qui entrent dans la veine plutôt raciste des chansons coloniales. Il reprend là. En fait, un thème qui est un thème qui va obséder les compositeurs du 19e, qui est le thème du harem.
Chaque jour, ils en ont une nouvelle, alors ils font des étincelles. Ils ne mangent pas comme nous, messieurs, à chaque repas du pot au feu. Je comprends qu'ils en mettent un coup. Vive les Mormons, vive les Papous.
Et quand je pense à Jamaskara, Harbi, Chouya, Barka, et le climat m'ayant travaillé, basta la carte.
aussi. J'aborde une jeune moutière, assise sur son derrière, et la croyant rosière, je lui dis en langue arabe, Bella Fatima. Pour y passer la nuit, je cherche un tout petit abri, Bella Fatima. Ouvre-moi la porte de ton gourbi. Arwa, arwa, répond la Fatma, viens t'auras tout ça, qu'est-ce qui voudra. C'était ta passe ou ma gandoura, dans la beau Sidi, c'est le paradis.
Il y a même les youyou, voilà. Il y a même les youyou, admiratifs envers le héros français, j'imagine.
Oui. Alors là, bon, ben ça c'est tout à fait la, ça revient. Enfin, c'est ce thème de la femme facile. Là, c'est carrément la prostituée, très probablement.
Ça, ça nous permet de rappeler que le climat travaille les colons, comme le dit la chanson. Donc il y a ce climat chaud qui est propice aux voluptés. Et puis, oui, là, c'est la prostituée.
Bien 1910, sûr. Hein, ça date.
Oui, oui. C'est la grande époque du Maroc. Le Maroc est très à la mode. Pour le pire souvent, c'est la prostitution, bien sûr, qui est un thème aussi très très important de la chanson coloniale, avec ce qu'on peut ramener de la prostitution, c'est-à-dire beaucoup de maladies vénériennes. Il y a toute une série de chansons qui s'amusent beaucoup des malheurs.
Là, c'est des comiques troupiers.
Là, c'est Alcide Terneuse.
Oui. C'est un comique troupier.
On peut considérer que c'est un comique troupier, oui, parce que il est censé être soldat, le bonhomme.
Oui, et alors c'est une chanson, celle-ci, justement, elle est refusée au moment de la guerre de 14. Parce que, comme il y a les troupes coloniales qui ont à ce moment-là une importance considérable, et que on fait quantité de chansons à la gloire des soldats coloniaux, et par contre, on garde le même air, mais elle est visée un mois ou deux après par la préfecture de police en devenant une chanson qui compte les aventures d'un héroïque, d'un soldat colonial.
Ah,
donc là, la préfecture, voilà, là ça a passé, mais la chanson telle qu'elle avait été conçue en 1910 a été refusée.
À la Martinique, chanson nègre chantée par Charlus, il y avait un négro tout jeune et déjà costaud. Il venait de la Martinique, entra comme sa sœur chez une marchande de fleurs, qui avait une jolie boutique. Il eut complètement un costume rouge éclatant, elle lui dit c'est épatant. Ça tend plus joli que le costume de ton pays, le plus négro répondit, ya, 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 à la Martinique, 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 si ça ici, si ça ici, pas de temps de code de pantalon, simplement un tout petit caleçon, y en a du plaisir, du plaisir. Jamais malade, jamais mourir. On ôte le caleçon pour l'idée de soir et tout le monde est en noir.
Alors la Martinique, ça c'est un grand succès. C'est une biguine, hein, c'est-à-dire que là, donc par rapport à ce qu'on a écouté jusque-là, j'ai le sentiment que c'est la première fois que c'est la musique d'ailleurs qui influence le compositeur.
Oui, ça c'est possible.
Sur le plan musical,
c'est possible. C'est une musique quand même aussi d'un grand compositeur qui est Henri Christinet. Et puis c'est une chanson qui a eu un succès extraordinaire puisqu'elle a été chantée par les plus grands. Elle est chantée par Mayol, elle est chantée par Paulus, et c'est vraiment une chanson qui correspond aussi à un type de chanson coloniale. C'est les amours entre un noir et une blanche. Alors c'est un thème qui a été souvent abordé dans la chanson coloniale, et par exemple l'inverse, c'est-à-dire les amours d'une blanche pour un noir, n'apparaît que justement vers la Première Guerre mondiale. Au début, il y a une espèce d'interdit qui existe.
Les petites femmes se mettent simplement une feuille de bananier par devant. Y en a du plaisir, du plaisir, du plaisir. Jamais malade, jamais mourir. Y a la haine, la feuille ne sert à rien du tout. On sait bien si bien tout. Y a, y a, y a, y a.
Parmi
Sénégalais qu'on fit venir pour la revue. Jour du 14 juillet se trouvait la chose inconnue. Un grand gaillard à la peau noire, aux dents comme l'ivoire. Je vais vous conter son histoire dans cette chanson. D'abord voici le nom de ce brave garçon. Il s'appelait Boudou Badabou. Il jouait de la flûte en acajou. Je n'exagère pas, c'était le plus beau gars de toute la Nouba. Oh, quand son régiment défilait, pour son joyeux des flageolets, le tout en boucle admirait surtout celui de Boudou Badabou. En se promenant un matin au coin de la rue du 4 septembre, il connut un petit rotin aux cheveux dorés comme l'ambre. Ils s'aimèrent toute une semaine, mais le turco, pas de veine, parti pour la terre africaine. Ce fut déchirant, et la blonde enfant disait en pleurant. Il s'appelait Boudou Badabou, il jouait de la flûte en acajou, et voilà qui s'en va dans le Sahara avec la Nouba. Toutes les femmes sont folles de lui, et ce qui me désole, c'est qu'aujourd'hui, celles de Tombouctou doivent faire joujou avec Bidi Boudou Badabou.
Là, c'est Boudou Badabou par Mayol. La chanson date de 1913. Là, c'est l'armée coloniale, hein. Boudou Badabou, il joue de la flûte en acajou, mais c'est un militaire.
Voilà. C'est un Sénégalais. C'est un des fameux tirailleurs sénégalais qui ont fait la gloire de l'armée française, qui sont entrés dans la légende. Aussi avec Yabon Banania. Alors là, c'est une chanson très importante parce que elle commence sur le mode comique, grivois, les jeux de flageolets, etc. On retrouve le thème scabreux des amours entre un noir et une femme blanche. C'est un petit trottin, donc ça veut dire que c'est quand même pas grand-chose,
oui,
le petit
trottin,
bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite de la chanson parce que à la fin, si on peut l'écouter, on voit que Boudou Badabou meurt au combat. Et donc devient un héros, et je crois que c'est un légionnaire de ses amis qui vient annoncer la nouvelle à son aimé. Donc on a un changement du registre comique, érotico-grivois à un registre patriotique. Et souvent, la chanson joue sur les deux. C'est rare d'avoir les deux thèmes dans la même, quand même.
Un soldat de la Légion, un jour vint frapper à sa porte. Bien qu'elle trembla d'émotion, elle se contint et resta forte. « Parlez-moi vite, lui dit-elle. Voilà, mademoiselle, je vous apporte des nouvelles d'un de mes amis à qui j'ai promis vous dire ce que je vous dis. Il s'appelait Boudou Badabou, il fit son devoir jusqu'au bout et dans un combat, il est mort là-bas avec la Nouba. Ah. » Oui, mais en mourant sur son cœur, il a pris sa belle croix d'honneur. Mamselle, c'est pour vous, c'était le seul bijou du pauvre Boudou Badabou.
On pourrait peut-être dire un petit mot aussi de Félix Mayol, parce que lui aussi, son répertoire est presque entièrement centré sur la chanson coloniale. Alors,
il avait un succès fou, c'était
un succès fou. Il était cuisinier au départ, mais la chanson lui a davantage réussi. Et il a fait aussi des tournées. Il a fait une tournée en Algérie, il a fait une tournée en Égypte. Il s'est beaucoup intéressé Il a fait même une chanson à Alger qui est très très peu connue, où il chante la conquête de l'Algérie par la France, les rapports entre la mère patrie et puis la colonie. Et c'est quelqu'un qui a été très très intéressé. Et alors c'est quelqu'un qui ne s'est jamais rendu compte qu'il pouvait y avoir quelque chose de raciste dans ses chansons, dans les paroles de ses chansons.
D'amour et la France d'argent, il avait un jour volé ses parents, et le père vengeur, loin de pardonner, brisant leur de cœur, le qui soit gagé. Et tout là-bas dans le désert de feu, il murmure et les larmes pleines d'yeux. Sous le soleil marocain, je pointe à toi, toi ma chenille. Au pays des récins, en souvenir me fait aimer la ville. Dans le sable sans fin, ton amour seul berce ma nostalgie. Oh, la douleur qui me hante et qui m'étreint sous le soleil marocain.
Ça c'est dramatique, là.
Oui, c'est dramatique. Claude. C'est le fils prodigue qui est puni par son père et que son père menace de donner à la police et qui est obligé de s'engager et qui se retrouve au Maroc pendant la guerre du Rif. Guerre qui a profondément marqué les esprits à l'époque. Le Maroc donc est partagé entre la France et l'Espagne au début du siècle, en 1910-1911, et il y a une très longue résistance qui va durer jusqu'en 1932. L'épisode le plus important de cette résistance, c'est ce qu'on appelle la guerre du Rif, c'est-à-dire la lutte organisée autour d'Abdelkrim contre les troupes espagnoles et françaises dans les années 1920. Guerre qui sera très longue, qui durera 4 ans, qui sera très violente. C'est Pétain remplacera Lyoté, qui n'était pas assez énergique aux yeux du gouvernement français, et Pétain sera le premier à organiser des bombardements de populations civiles bien avant Guernica, pendant la guerre du Rif. Donc cette guerre a profondément marqué les esprits en France. Et là, on a un thème de l'armée qui peut servir à punir les fortes têtes, qui peut servir à faire d'un jeune tenté par le vol un véritable homme.
Des burnes volants et des coups de feu, alerte le camp en fermant les yeux. Le petit soldat tombe le corps troué en revoyant là-bas ce qu'il va quitter. Et c'est pour dans son dernier soupir qu'il dit encore déjà près de mourir. Sous le soleil marocain, adieu, adieu, mon enfant la chenille. Au pays des Rifins, sans vous revoir, quitter la ville. Dans le sable sans fin, sans vos baisers, je connais l'agonie. Seule une croix demain sera mon destin sous le soleil marocain.
Et puis là, la chanson finit mal puisqu'il meurt. Et en pensant à sa bien-aimée, d'ailleurs, elle a été longtemps considérée comme suspecte d'anticolonialisme, ce qu'elle n'est pas. Le même chanteur chantera des gaudrioles sans grand intérêt, mais on a parlé plusieurs fois de la censure. Pendant la guerre du Rif, je disais que c'était la première grande campagne anticolonialiste avant la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, organisée par le Parti communiste français, et cette campagne n'est pas restée sans écho. Le gouvernement a peur de voir se développer des phénomènes de protestation contre cette guerre. D'où les mauvaises aventures subies par cette chanson.
Chansons coloniales, les chansons que nos parents, grands-parents chantèrent et qui sont encore parfois dans nos mémoires. Qu'est-ce qu'elles racontent de nous-mêmes dans notre archéologie mentale? Regardez, par exemple, en 1931, l'exposition coloniale, formidable moment, l'apogée de l'aventure coloniale française. Un Géo Cogé, très oublié, chantait, avait écrit une chanson qui disait ceci. Alors, je vous la chante pas, je vous le dis, c'est différent, vous allez voir. Allons voir le Maroc, j'adore cette nation, tu verras des Fatmas qui font la danse du ventre, et des chèques qui ne sont pas des chèques sans provision. Là, c'est les nègres du Congo, ne les regarde pas trop, sinon demain tu peux me croire, ça te donnera des idées noires. Ici c'est le Soudan, tu vois c'est admirable, les négresses ont la tête frisée comme des moutons, paraît que dans ce pays-là, il n'y a pas d'un défrisable, etc., etc. Alors on peut sourire, être indulgent, ou bien voir là, quand même, la trace
violente, puissante, de l'inconscient de l'homme blanc qui n'éprouvait que mépris, quand même, pour les dominer. Est-ce qu'aujourd'hui cette histoire est à jamais abolie? Certainement pas. Elle existe sous d'autres atours, d'autres façons que la domination a de s'exercer sur le dominant. Mais évidemment qu'à l'époque, ceux qui chantaient ces chansons ne se douteraient, ils pouvaient pas absolument se douter qu'un jour on les mettrait comme ça un peu. En question. Il y a eu des chefs-d'œuvre, encore une fois, dans ces chansons, puisque on prend une période très longue qui va de 1830 à aux années 60. On verra dans les émissions suivantes, même jusqu'à aujourd'hui, Couleur Café, par exemple. Enfin, plein de chansons comme ça qui témoignent de cette image, de l'imaginaire né dans ces époques-là. On est avec Claude Liozu et Josette Liozu, deux historiens, auteurs d'un livre passionnant, vous avez compris, un regard sur cette mémoire de la chanson coloniale.
Bien notre cher président, à qui il est éloquent, et quel diplomate épatant. À Dunkerque, qui dit messieurs, vive le Nord, à Marseille il vous sort, vive le Minique, aucun ne sort. Mais quand en Algérie il part pour quelques jours, tout le long du parcours, il potasse un très beau discours. Il parle d'un ton bref, mes amis, y'a pour nous Bézef, me voici, je suis algérien, et si je viens, ce n'est pas pour rien. Je suis venu pour vous dire en un sourire, je suis venu pour vous répéter tant et plus. Ah, si le brave Abdelkader revenait en Algérie, il serait heureux, Abdelkader, de voir comme elle est jolie. Il y a du pinard, du chemin de fer, nous chameaux de l'industrie. Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader. Le vin d'Algérie est un si doux nectar qu'on s'en sert de la gapare pour rajeunir le vieux pommard. Quant à son cheptel, il est de plus en plus beau, les vaches ont des veaux et les juments ont des jumeaux. À la GAFA, messieurs, c'est la pure vérité, il y a l'électricité, la TSF, la CGT. Pour traverser le désert, mon ami, maintenant on se sert des chenilles et des autos, Citroën remplace les chameaux. Non, je t'ai plus, des merveilles sont pareilles. Non, je t'ai plus, percepteur, là vous tombez dessus. Ah, si le brave Abdelkader revenait en Algérie, il serait heureux, Abdelkader, de voir comme elle est jolie. Il y a du pinard, du chemin de fer, du chameau, de l'industrie. Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader.
Là, c'est bon, ça rejoint la chanson qui informe, hein, c'est la chanson de l'information.
Ça, c'est 1930-1931, c'est l'époque du centenaire de la conquête de l'Algérie, c'est bien sûr la grande figure de Abdelkader, qui est traité là sous le mode un peu dérisoire.
Qui était Abdelkader?
Alors, Abdelkader, c'est le maître d'œuvre, c'est le héros de la résistance contre la conquête française en Algérie, qui a donné du fil à retordre pendant une vingtaine d'années aux troupes françaises et en particulier à ce fameux maréchal Bugeaud.
Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader.
Et donc, Abdelkader, qui a été une grande figure de la résistance, c'est important de le remarquer, n'a pas une image négative dans notre mémoire. Peut-être certainement parce qu'il a sauvé des chrétiens à Damas, mais c'était un ami de Napoléon III, qui lui avait permis de ne pas rester en exil n'importe où, qui avait autorisé Abdelkader à se rendre en Syrie. C'était un ami de Ferdinand de Lesseps, et on le verra à l'inauguration du canal de Suez en 1869, Abdelkader. Donc c'est un personnage tout à fait intéressant, et il faut souligner que sa résistance a bien sûr suscité toute une volée de chansons violemment anti-Abdelkader, mais il y a eu aussi des hommages qui lui ont été rendus parce que on considérait qu'il défendait sa patrie, qu'il défendait sa société. Il y a donc, dans les années 1830-1840, des chansons qui font hommage au...
1830.
Ce qui serait inconcevable pendant la guerre d'Algérie. Donc finalement, ça montre qu'il y a certainement eu une pénétration en profondeur du racisme. On voit mal, dans les années 1950, exalter l'héroïsme des, ce qu'on appelait les félagas. Il y a une espèce de bienveillance dans la culture républicaine. On reconnaît dans Abdelkader quelqu'un qui défend peut-être les mêmes idéaux que nous. Et on voit parfois le bon sauvage résister à la colonisation. Mais malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement de ce thème-là.
Il y avait à Sidi Ogba, bien avant la guerre, un bédouin qui était le papa d'une jolie mouquère. Mais une caravane campa qui volait du Caire, sans manière, par derrière, la fille des campades. La fille du bédouin suivait nuit et jour cette caravane. Elle mourait d'amour pour un jeune bédouin de la caravane. Et le petit ânier dans les bananiers chiffait des balades que la fille du bédouin rangeait avec soin dans son petit couvain. Voilà ce qu'elle endura quand elle fut en ronde. Elle dut en sortant de Biskra pour gagner sa croûte. Céder son petit cédra et sa petite moumoute. Coûte que coûte, y a pas de doute à ses scélérats. La fille du bédouin suivait nuit et jour cette caravane. Elle connut tour à tour tous les autres bédouins de la caravane. Et tous les chameliers et tous les alliés envirent leur sultane. La fille du bédouin avait trouvé le joint pour garnir son couvain.
Alors évidemment, ça marche par allusion, la banane, le couffin, garnir le petit couffin, on comprend tout de suite et on rigole, voilà, c'est le grivois.
On
c'est
rigole dans les cours de récréation pendant des décennies et des décennies, où oui. les repas d'étudiants, je veux dire, un immense succès, et on retrouve cette femme bédouine, donc mauresque si on veut, insatiable, infatigable, c'est un thème très fréquent, qui a encore des échos aujourd'hui.
Quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était né nulle part, un joyeux lascar. Pour être élégant, c'est au pied qu'il mettait ses gants. Né nulle part, ça dure tard. Mettez un petit rigolard. T'es nu comme un verre, tu as les onlaires et les cheveux en paille de fer. N'est nulle part, ça dure tard, mais t'es quand même débrouillard. Ça fait la conquête des parisiennes, c'est leur fétiche et tu leur porte-mène. Faut pas croire toujours tout ce que n'est nulle part raconte. Ainsi l'autre jour il m'a dit quand je fais mes comptes. À la craie j'écris sur le dos de ma chérie et d'un coup de torchon après j'efface les additions. N'est nulle part, ça dure tard, mettez un petit rigolard. T'es nu comme un fer, tu as le nez en l'air et les cheveux en paille de fer. N'est nulle part, ça dure tard, mais t'es quand même débrouillard. T'as fait la conquête des parisiennes, t'es leur fétiche et tu leur porte-mène.
Alors les nénuphars, ça date de 1931, là c'est la grande exposition coloniale et ça démarre très fort avec cette chanson chantée par Alibert qui est une grande vedette des variétés à l'époque. À la craie j'écris sur le dos de ma chérie les cheveux en paille de fer. Il y a un côté un peu condescendant aussi, paternaliste, ou c'est un brave gars, etc. Mais enfin bon, c'est un sous-homme quand même, faut quand même.
Ben, il met ses gants au pied, oui. Il nous singe. C'est l'image du singe.
Du bon sauvage,
oui.
Un peu,
Oui. Proche de l'animalité. Ça revient constamment. Et dans le livre, on n'a pas mis tous les textes qu'on aurait pu mettre parce que ça en devenait lassant et quasiment obscène, cette répétition du noir, de boîte à cirage, etc., qui assignait les noirs à un statut de monstruosité ou d'animalité. Là, on est presque sur un mode comique, sur un mode bon enfant. Mais alors là, on est quand même à l'opposé presque de ce que souhaitait le maréchal Lyautey, qui voulait une exposition, dont il a été le commissaire général, une exposition éducatrice, digne, etc. Il a essayé de faire la chasse à cela, mais ça revenait, il y a autour de l'exposition coloniale toute une série de chansons très très comiques du même acabit.
Un jour, Nénuphar entra dans une grande parfumerie. Il voulait des fards pour les lèvres de sa petite amie. Donnez-moi, qu'il dit, du rouge en étui. J'en veux 30 kilos, car c'est une négresse à plateau. Nénuphar, ça dure tard, mais t'es un petit rigolard. T'es nu comme un fer, tu as le nez en l'air et les cheveux en paille de fer. Nénuphar, ça dure tard, mais t'es quand même débrouillard. Ça fait la conquête des Parisiennes, c'est leur fétiche et tu leur portes veine. Ça fait la conquête des Parisiennes, c'est leur fétiche et tu leur portes veine.
Alors là, j'ai un texte, Claude et Josette, de Frantz Fanon. Frantz Fanon, Les damnés de la terre, et c'est cité par Marc Ferraud dans l'histoire de France de Marc Ferraud. Il cite ce passage des damnés de la terre de Frantz Fanon et il dit ceci, écoutez bien, parce que ça colle tout à fait avec ces chansons et les commentaires que vous faites tous les deux sur le regard du colonisé. Le regard que le colonisé jette sur la ville du colon est un regard de luxure, un regard d'envie, rêve de possession. S'asseoir à la table du colon, coucher dans le lit du colon avec sa femme si possible. Le colon ne l'ignore pas, ils veulent prendre notre place, se dit-il. C'est vrai, il n'y a pas un colonisé qui ne rêve au moins une fois par jour de s'installer à la place du colon. Voilà, et c'est, on se demandait si cette colonisation que nous voyons vue par nous, vue du côté des colonisés, comment elle avait été vue de la part des colonisés, ben voilà, le regard que Frantz Fanon prête aux colonisés.
C'est une histoire assez curieuse. Amélie n'avait jamais rien voulu savoir avec un blanc. Au bout de 15 ans de fidélité conjugale, elle a marché avec un nègre.
Comment, avec un nègre?
Oui, un petit porteur de parasol. Un cadeau de Louis XV amoureux. Sacré Louis XV. Mon arrière-grand-maman n'avait pas de tempérament. Et bien qu'elle fût très belle, elle était fidèle. Pas une fois elle ne trompa mon arrière-grand-papa. Oui, c'était une vertu, comme on n'en voit plus. Mais depuis la Dubarry, la grande mode à Paris était d'avoir un petit nègre de Tahiti. Droit Louis XV, très galant, quand vint le jour de l'an, en offrit un aussi à Amélie.
Alors là, évidemment, on sourit, on est indulgent, parce que c'est le génialissime Michel Simon, le plus beau, le plus grand, j'allais dire comédien, mais c'est plus que ça, quoi. C'est un véritable poète, un artiste extraordinaire, et qui chante donc Amour en noir et blanc. Ça date de 1933, enfin la chanson a été écrite en 1933. Et là, alors, Claude et Josette, là, ça renvoie à une autre époque de la colonisation, celle-là, hein, c'est les découvertes quand on allait aux Amériques, ou là c'est même Tahiti, où on ramenait un petit négrillon, un sauvage, qu'on exhibait dans les rues ou qu'on montrait à la cour, c'est ça?
Dans les salons, ça décore toujours les immeubles bourgeois, vous savez, ces noirs, ces petits négrillons, comme on dit, qui tiennent une lampe dans les entrées d'immeubles, et c'est décoratif, c'est amusant. Oui, c'est un petit peu animal, et les dames de la bonne société pouvaient avoir leur négrillon. Alors, ce qui se passait après, d'après Michel Simon,
on a un point de vue. C'est plutôt le contraire dont on a l'habitude. C'est la relation blanc-femme noire dans ces sociétés esclavagistes. Là, on a l'intuition que ça ne marchait pas seulement dans le même sens toujours.
Oui, mais un soir qu'Amélie allait pour se mettre au lit, en retirant sa chemise, elle vit surprise au milieu de ses draps blancs le petit nègre tremblant qui lui dit: moi y en a froid, toi réchauffez-moi.
Et c'est un thème très fort. Il faut souligner que ça passe parce que Michel Simon est un comique, donc c'est présenté de manière amusante. Ça passe parce que Amélie, qui était une femme beaucoup trop froide pour ne pas cacher quelque chose, un volcan bien entendu.
Toujours.
Donc on retrouve la femme hystérique ou la femme frustrée ou la femme assoiffée de plaisir.
Elle entra, vous pouvez le croire, dans une colère noire, mais sa colère finit, elle entra dans le lit. N'ayant pas le cœur inhumain, elle réchauffa le gamin. Vous devinez après ça ce qui se passe. Amélie et son négro furent méli-mélo. Elle passa dit l'histoire des tas de nuits blanches près de sa passion noire. Elle acquitte en peu de temps du tempérament. Et chiffant le jargon de son négrillon, elle criait dans le noir: y'a bon!
Y'a bon, dit Amélie.
Oui. Banania, etc. Voilà. Oui, oui. C'est une veine. Le comique colonial est une veine et il y a toujours ces onomatopées, ces y'a bon. Etc, etc.
Mais dites donc, elle est banale, votre histoire.
Oui, mais attendez, c'est pas fini.
Mais le racisme, en l'occurrence, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein, arrive sous les atours de la bonhomie, de la gauloiserie, de la grivoiserie.
C'est pas fini.
Racisme bon enfant, de la bonne conscience, qui va de soi, qui est accepté par à peu près tout le monde, c'est certain. Et quand c'est chanté par Michel Simon, c'est évident que ça passe très bien. Et on rit.
Mais attendez, c'est pas fini.
Voilà, merci à tous. Merci à Josette et Claude de Liosu. Un nouveau repère des amis de là-bas, si j'y suis, à Saint-Denis-de-la-Réunion. C'est le bar-restaurant chez Francky. Et les amis de là-bas, si j'y suis, s'y retrouvent tous les premiers jeudis du mois. Le prochain rendez-vous dans ce repère, c'est le 1er décembre. Technique aujourd'hui, Juliette Chabassu et Antoine Viossa. Réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet. Assistante Pascal Pascariello. Répondeur Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas chez Jismi. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.